J'ai beaucoup apprécié tes deux ouvertures, puisque c'est des questions qu'on se pose aussi dans différentes sous-communautés, différents groupes de travail, du lien entre la peer production qui vient du logiciel, les biens communs numériques et les biens communs environnementaux, et la manière dont la société civile et les alliés politiques peuvent s'approprier les deux pour proposer de nouveaux modèles, notamment Commons Network Group. Je ne sais pas s'il était
Je sais pas.
sur ta slide, le projet qui était fondé par Sophie Blumen et David Arnstein.
Alors,
En fait,
peut-être
tu
pas.
avais changé la slide avant que j'ai fini de.
Je pense pas. Je
Si, c'est
pense.
Common Strategies,
Ah, ok, d'accord, oui,
pardon,
d'accord. Ah, oui, très
je
bien.
crois,
Ok.
l'URL.
Ok.
Et c'est Common Network. Se propose de faire avec le politique à Bruxelles, normalement, dans la précédente mandature du Parlement européen. Il y avait un intergroupe
Ah oui.
dédié aux commons,
Ok.
avec à la fois des chercheurs et des activistes
Ouais.
qui venaient des deux milieux, bien commun numérique et bien commun environnementaux. Enfin, j'emploie bien commun, mais que je, de manière synonyme
Bien public.
à peer production ou
Oui,
à
enfin,
commons
on va pas.
based peer production.
Je suis pas fixé sur les termes, on comprend à peu près de quoi il
Oui. Voilà,
Ok,
donc
bah
on va
merci.
ouvrir à la discussion. Est-ce qu'il y a des questions de clarification tout d'abord?
Ben, moi, je voudrais bien que tu reviennes là-dessus, justement, comment tu l'as construit, qu'est-ce que tu en tires, et notamment ce que tu disais sur il n'y a
Ben,
pas de.
j'en tire pas énormément. Enfin, bon, on l'a construit donc de manière la manière assez classique. Hein. Je ne sais pas, tu connais les travaux de Richard Rogers, Issue Crawler. Bon, c'est assez synonyme, hein, enfin, c'est assez parallèle à ce qu'il fait. Il faut donc. En fait, c'était intéressant parce que normalement, quand tu fais une analyse comme ça, il y a énormément de sites qui sont pas utiles et donc il faut les enlever. C'est-à-dire qu'il y a par exemple Adobe.com, okay, ça c'est un site purement technique, ou un site commercial qui n'a rien à voir avec le sujet. Et là, en fait, c'était pas du tout le cas. Donc mais en fait, c'est parce qu'on a fait ça. Ça, c'est vraiment quelque chose de très rapide. Hein. On n'a pas fait de manière. On va peut-être l'utiliser dans le handbook, mais c'est quelque chose qu'on a fait de manière assez rapide. Donc oui, on construit une liste de sites. On les fait passer dans le collecteur, dans le web crawler. Et ça, en fait, ça collecte simplement les liens vers un autre site, mais ça collecte pas l'information dans ces autres sites. Donc ça reste assez basé sur le. Ça ne va pas collecter les liens de GitHub vers d'autres choses. C'est juste les connexions de tous les sites vers GitHub. Voilà.
Et c'est quoi les critères pour sélectionner les sites? Pour les retenir?
Au début, ou simplement qu'ils soient connectés, qu'ils aient eu des connexions avec les sites qu'on a choisis au début. C'est-à-dire qu'on établit une liste de sites universitaires ou activistes ou de recherche scientifique
Ça me semble.
dans cet univers, quoi. Donc on a demandé à plusieurs personnes et on a juste. Mais donc c'est complètement influencé par la décision de départ, quoi. Ça c'est clair. Et c'est vrai qu'on aurait pu essayer de trouver plus de sites orientés business, orientés efficacité, mais on l'a pas fait. On voulait justement voir quel était cet univers-là. Et la grosse découverte, enfin le gros finding, c'est que c'est un univers complètement autonome, quoi. C'est-à-dire, il n'y a aucune connexion vers les entreprises ou vers les sites de business, quoi. À part les sites de réseaux sociaux comme Twitter et Instagram, je pense qu'il y a aussi Instagram. Ouais. Donc c'est vraiment les seuls. Bon, par exemple, bon,
Twitter,
là,
Facebook.
hein.
Twitter,
Facebook, non, apparemment non. Non.
si.
Il y est, je sais pas, j'ai pas fait attention en fait. C'est pas un. Oui, il est là. Facebook est là, Twitter est là. C'était un petit peu pour voir quels étaient les acteurs centraux. Donc, bon, bah, PHP Foundation, c'est l'acteur central. Le journal de pre-production, ça s'appelle Pre-Production Now. Bon, ce qui est intéressant, c'est que ça a ramené d'autres acteurs comme Creative Commons, GitHub, SSRN, etc., qu'on n'avait pas mis. Donc, eux font partie de ça, sont considérés comme faisant partie de cette sphère des commandes. Mais à part ça, y a pas, c'est pas, l'analyse des réseaux, elle n'est pas toujours très enrichissante. Hein. On trouve un peu ce qu'on met, et puis bon, mais ça confirme un peu ce qu'on pensait. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question.
Et Common Strategies Group, ce n'est pas la même chose que le groupe que j'évoquais. Ah, okay. Je pourrais t'envoyer.
D'accord. Oui, on peut encore le refaire. Mm.
D'autres. Oui. Jean-Baptiste et Sébastien.
Merci beaucoup pour la présentation. Moi, je suis venu parce que c'est le terme Peer Production Studies qui m'a intéressé. La question, c'est quel serait le lien avec des travaux de recherche de type recherche-action, éducation populaire, je pense que vous travaillez un message par une heure, qui s'intéresse justement à des formes de production d'une culture qui viendrait dans des usines, dans des collectifs, des associations. Est-ce qu'il y a un lien est-ce que,
pas vraiment. Enfin, disons, moi, ce que j'essaie de dire, c'est que c'est un peu le côté do it yourself, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas. Il faut simplement. Essayer de mettre en pratique soi-même, dans sa pratique, certains des principes. Ce n'est pas tellement une question d'aller... Après, bon, le site où ça se passe, c'est pas... Enfin, c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est une sorte de démarche un peu parallèle, mais que moi, je n'avais pas vraiment intégré dans cette présentation. Mais ça ne veut pas dire que c'est incompatible. Mais simplement, c'est une question des principes qu'on met en pratique, en fait. Quand on fait de la recherche... Ou quand on met un projet en place, de quelle manière on le fait. Et j'ai juste essayé de dire que peut-être constituer un champ avec, disons, bon, je me retrouve un peu dans la position d'un entrepreneur de ce champ, mais sans vraiment l'avoir voulu.
Bien sûr.
Mais est-ce que et c'est pas forcément, c'est pas étant ayant grandi dans les années 70 où vouloir réussir était suspect, voire fasciste, comme disait quelqu'un. J'ai toujours, enfin c'est un peu côté génération X où on n'a pas toujours envie de participer au système, donc c'est un peu le côté un peu duel. Mais c'est tout à fait légitime et valable de faire ce genre de démarche, mais c'est pas contradictoire. C'est-à-dire que je pense que c'est plutôt sur la manière dont on fait les choses. C'est ça que j'insiste là. C'est la manière, c'est-à-dire de faire ça de manière le plus transparent, respectueux, etc. En fait, c'est parce que si on veut créer une économie volontaire, il faut que les gens se sentent bien et soient respectés et aient les mêmes droits. Donc ça, tout part de là. Voilà. Donc après, la façon où on va, avec qui on travaille, ça ne change pas. Cette fondation, je ne sais pas si je suis clair.
Si, c'est clair. Ouais. Mon point, c'était parce que les peer production studies, ce n'est pas forcément une économie. Justement, les studies, ils peuvent être faits par des gens dans ce métier comme dans cette table ici. C'est des terrains, on va aller voir, on va enquêter sur ces terrains, on va en ramener de la connaissance. On pourrait se dire aussi que ce sont des gens sur le terrain qui produisent eux-mêmes une forme de connaissance.
Tout à fait.
Et moi, ce qui m'avait particulièrement intéressé, c'est un jour, j'ai reçu un email de Max Higaz, qui est un chercheur maintenant anglais, et qui...
Hongrois.
Pardon, si tu es en Angleterre, oui. Universel, c'est pour une question de l'idée. Mais en tout cas, qui m'avait dit, est-ce que c'est OK que je reprenne des commentaires que tu as fait sur telle mailing list et que je les copie-colle dans Journal of Peer Production Studies. Donc l'article a été fait par une sorte d'emprunt, donc il a fait une sorte de curation, de fragments, d'échanges dans des mailing lists. Et donc l'idée c'était de changer un petit peu la nature, la posture de l'enquêteur. Et j'avais trouvé ça très intéressant de se dire que finalement, peer production, ça me permet aussi peut-être justement d'être dans d'autres formes de... Même d'organisation de comment on fait la recherche, et c'est un peu ce que je sens dans ce que...
Ouais, un petit peu, ouais. Enfin, voilà. Nous, moi, ce que... Enfin, moi, j'aime bien J'aime bien quand les gens, comment dire, rentrent dans le film.
Voilà.
Et apportent leur énergie, leur enthousiasme. Et donc, on a eu un numéro sur l'urbanisme où il y avait des dérives psychogéographiques, il y avait des vidéos d'artistes. Enfin, je veux dire, c'était très... Il n'y a pas vraiment de limite. Puisque on fait ça pour nous. Donc, du moment que c'est fait bien, net, de manière claire, etc., on peut faire ce qu'on veut, quoi. Mais il faut quand même que ce soit... bon, qu'il y ait une certaine qualité. Et c'est sûr que... Bon, on est quand même dans un univers universitaire assez formaté, il faut vraiment rentrer. Et donc ça nous permet d'avoir un petit peu plus de liberté dans notre pratique. Mais, encore une fois, le revers de la médaille, c'est que ça vaut rien. Je veux dire, en termes de... Enfin, c'est, ce journal, il est, comment dire, il est recensé dans les critères de l'Austrian Research Council. Donc ils ont des... ils ont des listes de journaux qui sont reconnus comme étant de qualité. On est là-dedans. Donc on s'est battu pour y être parce qu'on disait on travaille, il faut quand même que ce soit. Mais après, c'est vraiment. On parlait de ça avec Mélanie. Les articles n'ont pas de DOI, okay, parce qu'il n'y a personne pour s'en occuper. Donc c'est vraiment. Il y a tellement maintenant de contraintes pour que la recherche soit quantifiée que c'est toujours la tension. C'est-à-dire que comme dans les projets volontaires, on s'occupe que des choses qu'on a envie de faire ou qui sont absolument essentielles. Et les choses, ben, si personne ne le fait, voilà. Mais c'est ça qui est la beauté, c'est que si les gens ont envie de s'investir, ils peuvent. Et c'est ça la richesse. C'est qu'il y a des gens qui arrivent avec leurs intérêts, leurs perspectives, qui amènent un nouveau sujet, une nouvelle perspective. Et ça, c'est super, quoi. Ça marche, en fait. Je veux dire, j'étais pas sûr si ça allait marcher, mais en fait, ça a marché quand même. On continue malgré tout et les gens continuent d'apporter leurs idées. Donc, voilà.
Sébastien ?
Moi j'avais une question par rapport à la place de l'État. Moi, je me disais sur comment numérique l'État. Donc, j'avais vu que parmi les 250 plus grands contributeurs à GitHub, la majorité vient de. Enfin, pas la majorité, mais en tout cas l'institution qui a le plus gros taux de gros contributeurs en France, c'est Betagood. C'est assez étrange.
Betagood, je ne sais pas ce que
c'est. C'est une institution publique, en fait. Ça s'appelle l'incubateur des startups au sein de l'État avant qu'ils changent de nom, parce que ça faisait trop startup. La question, c'était. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont énormément d'argent. Enfin, quand l'État décide de soutenir un projet, ils peuvent financer un développeur pendant un an, deux ans sur un projet, ce qui coûte extrêmement cher. Et donc, c'est quand même une force. Quand ils arrivent à développer certains objets. Et du coup, comment réussir à. Donc, peut-être une question plus de recherche. Est-ce que dans les peer productions, les relations avec des acteurs publics qui étudiaient, c'est-à-dire que là, dans les résultats de recherche que vous aviez, c'était que la différence entre des acteurs associatifs ou bénévoles et des acteurs payés n'était pas si grande parce qu'ils arrivaient en fait, à se dire ce qui compte, c'est la beauté du code. Est-ce qu'il y a des études sur la manière dont les interactions se font entre ces acteurs-là et les acteurs publics? Est-ce que oui ou non, il y a une distinction? C'est vraiment une question de...
C'est une question très intéressante, et c'est le sujet du prochain projet de recherche qu'on veut mettre en place. C'est-à-dire qu'on a, collecté, en fait, bon, j'ai pas tellement présenté le projet puisque je vais le faire demain, mais on collecte donc des données sur GitHub, on fait aussi de la recherche sémantique dans les projets, on fait aussi des sondages sur les projets et on fait de l'ethnographie dans les conventions. On est allé à European Open Source Summit à Lyon. La semaine prochaine, on va au Paris Open Source Summit si on peut aller jusqu'à Aubervilliers. Et en février, ma collègue Laure va aller au FOSDEM à Bruxelles qui est beaucoup plus traditionnellement logiciel libre. Juste pour voir comment les discours des entreprises et des projets s'articulent. Donc on a une matière première qui est computationnelle, big data, avec donc d'ailleurs j'ai oublié de mentionner que dans la première phase qui est donc quantitative, on a donc cette analyse de GitHub et aussi une analyse des médias technologiques comme ZDNet, Computer World et je pense Slashdot. Et on regarde justement, on fait de l'analyse quantitative de proximité, de sentiments, etc. Donc on a beaucoup de données quantitatives. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Le rôle des pouvoirs publics est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et je disais justement avec Mélanie et Francesca, par exemple, c'est un exemple entre mille, hein, mais les astrophysiciens, ils sont énormément consommateurs de logiciels, parce qu'eux, ils font des calculs très importants, et en fait, ils codent tous en logiciel libre. Quoi. Et donc, simplement par le fait de leur travail, ils produisent énormément. Bon, après, est-ce que ça aide l'humanité, j'en sais rien, mais ils le font. Voilà. Donc, c'est une des communautés de pratique qui fait. Après, il y en a plein d'autres. Je veux dire, bon, c'est clair, on dit toujours l'exemple de la gendarmerie nationale en France. J'ai une autre slide où j'ai tous les différents types d'investissements comme ça jusqu'en 2012-2013. Mais moi, ce qui m'intéresserait particulièrement, c'est de voir, je sais pas, le rôle des programmes comme les Nations Unies ou l'UNESCO. Est-ce qu'ils ont une conscience de ça? Est-ce que, parce que c'est le type d'association, d'organisation, on espérerait qui comprennent la nécessité d'investir là-dedans, mais est-ce qu'ils le font? Est-ce qu'ils l'utilisent? Voilà, est-ce qu'ils utilisent ce type de produit ou pas? Oui.
Vas-y, rebondis.
Je crois qu'il y avait Kessénia qui voulait poser une question depuis tout à l'heure, mais c'est pas grave.
Juste pour rebondir sur cette idée qu'à un moment donné, des institutions internationales peuvent se saisir de ces modes d'action, il y a un jeu subtil de pouvoir contre pouvoir. J'imagine qu'il y a peut-être beaucoup de gens à l'UNESCO qui pourraient faire évoluer en interne des choses, mais peut-être aussi beaucoup de caractère industriel qui voudraient pousser dans le logiciel vers des institutions internationales. Le ministère des Armées, c'est un bon exemple. Il y a effectivement l'exemple de la gendarmerie qui disait on a des logiciels libres, notamment pour des problèmes de sécurité. C'est pas que pour de la mutualisation et de la transparence. Il y a quand même le contrat open bar de Microsoft qui a réussi à rentrer dans les services d'armée, donc il y a des tensions. Le point que je veux faire, c'est la semaine dernière, donc un autre terrain qui serait ultra intéressant d'étudier, c'est Hackers News, le site de Y Combinator, qui est un incubateur de start-up dans lequel il y a beaucoup d'échanges de gens de la communauté, et qui a annoncé que .org a été vendu à Ethos Capital. Et donc là, c'est vraiment un exemple, à mon avis, tout ici, ça, c'est quelque chose de très intéressant pour tout le monde. À un moment donné, on est passé d'une gestion de type commun, par des gens respectables, transparents, esprit, à ces mêmes personnes se constituent de manière privée et créent un fonds qui s'appelle Ethos Capital, et vont maintenant, de manière privée, pour un prix modique d'un milliard d'euros, gérer un commun. Donc, à un moment donné, en gros, les communs seraient différents, finalement, de forme d'organisation et de gouvernance privée. C'est une question qui reste quand même ouverte.
Et on y répondra demain.
Très bien. Voilà.
Je vais juste dire un peu, j'étais invité par... Zune, je crois que c'était Orne, de Mazière et Zune. Ils avaient écrit sur SPIP. Il m'avait invité à Bruxelles, il y a 5-6 ans, et on avait une discussion justement sur le rôle des États, enfin des collectivités. Il y avait quelqu'un d'une des régions en Belgique, la chef, l'approvisionnement technologique de la région, et elle disait « moi je suis tout à fait prêt à travailler avec les logiciels libres plutôt qu'avec donner une rente à Microsoft ». Mais le problème c'est qu'ils n'ont pas la capacité de rendre des produits en temps et heure, il n'y a pas des équipes.
Alors, Microsoft, oui.
Plus ou moins. Enfin, disons qu'il y a quand même il y a un contrat. Enfin, et alors, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on voit que, par exemple, Ubuntu, ils sont en train de démarcher un peu dans le monde entier pour trouver des marchés. Par exemple, en Australie, ils ont des gros marchés sur la gestion des données de cloud, etc., pour les universités. Et ils font vraiment de la concurrence aux grosses entreprises. Qu'est-ce qu'il y a?
Oui, j'avais une remarque qui est un peu liée avec celle de Sébastien par rapport à l'État et au logiciel libre. Ce que je vois en Russie, par exemple, c'est assez paradoxal parce que, vu la loi sur la souveraineté numérique, où en gros le gouvernement russe veut passer au tout russe, il développe un système opérationnel, un système d'exploitation russe à la base de Linux qui va s'appeler Astra. Et qui va être imposé aux militaires, par exemple, ou à la police, etc. Donc, ils vont passer au Linux. Mais c'est pas du tout par un bourg pour le logiciel libre. C'est parce que la licence, entre autres, permet de travailler à partir de l'Unix et construire un truc qui va être considéré comme en russe. Après, comment ils vont le prêter, c'est intéressant aussi, parce qu'à la fin, ça peut devenir un produit fermé, impossible à regarder dedans. Il y a une équipe de développeurs qui bosse là-dessus, qui est fortement détestée par la grande communauté aux ressources russes, et où ils les pointent de doigt là, sur les forums. Ah, je connais un qui travaille pour ça, il faut l'exclure de toutes les autres communautés, etc. Donc c'est un peu une division dans la communauté russe des développeurs du logiciel libre, pour ceux qui travaillent pour l'État, qui vont être exclus de partout, et ceux qui. Ouais. Reste fidèle aux idéaux politiques. Et puis, une question que j'avais, ça concerne la théorie, et notamment la notion de stigmergie. Je ne sais pas si tu as vu ça, si tu as lu un peu les articles, parce que moi, ça m'intéresse beaucoup.
C'est laisser des traces, en fait, pour que les autres puissent contribuer, oui.
Voilà. Et je ne sais pas si tu penses que cette notion a un potentiel heuristique, si c'est intéressant, si tu trouves que c'est un peu...
C'est utile. Après, j'ai pas... C'est quelque chose qui a été surtout utilisé par des activistes, à mon sens. Je ne me rappelle pas avoir lu beaucoup de recherche sociologique ou légale là-dessus.
Il y a eu une thèse obtenue en 2006.
Ça a été utilisé il y a quelques années, c'est sur Wikipédia en particulier. Mm-hmm. Je pense que c'est utile, peut-être que c'est utile de penser à ça comme une technique, c'est-à-dire une technique de collaboration. De la même manière que les licences sont une technique de collaboration. Quand on a des garanties qu'on aura les droits seront respectés, on peut ouvrir sa contribution, on peut on peut renoncer à son droit de propriété exclusive. Okay. Et je pense que les éléments de stigmergie sont un peu le même genre, c'est-à-dire que c'est des outils de facilitation de la collaboration en quelque sorte. C'est certainement un truc à creuser et peut-être qu'il faudrait faire une catégorisation. Quel type de pratique permet la collaboration? Ça permettrait de bâtir des outils utiles pour comment les autres peuvent se greffer sur quelque chose de manière cohérente et respectueuse des droits. Voilà. Donc je pense que oui, ça pourrait être utile, bien sûr. Voilà.
Désolée, je ne t'avais pas du tout vu, tu étais en dehors de mon champ de vision. C'était précis avec le reste du groupe. Pardon ? Et c'est intéressant parce que la question que je voulais poser est vraiment liée à la tienne et à ta réponse. En fait, je me pose la question et j'avais envisagé de faire un projet de recherche sans jamais commencer à écrire une ligne sur les différentes approches culturelles. À la fois de la pierre production, des biens communs. Donc moi, mon prisme d'entrée, ce serait, comme vous en doutez, le droit. Les licences sont calquées sur le modèle de la common law et les clauses de garantie et de responsabilité du monde anglo-saxon. Et pas du tout du modèle romano-germanique qui va donner plus de garanties. En fait, pour simplifier, le modèle du logiciel libre, on vous donne la licence sans garantie, et si ça ne marche pas, tant pis, c'était gratuit. Le donneur de licence n'engage pas sa responsabilité. Alors que en droit italien, allemand, français... Si vous donnez une œuvre sous licence Creative Commons, vous ne pouvez pas vraiment la donner sans garantie qu'elle ne constitue pas une contrefaçon. Et j'ai écrit un article là-dessus sur est-ce que tu peux donner quelque chose sans donner de garantie. Donc moi, je pensais pas trop, mais bon, je suis un peu isolée dans la communauté... juridique autour des communs. Et à ce propos, je me demandais, de manière un peu naïve, si au-delà des questions de licence, il y a des colorations culturelles de ce qu'on entend par commun et ce qu'on met dans les règles dans les règles de gouvernance des communs. Alors il y a tout ce qui est courant féministe des communs, donc là tu vas pas forcément savoir répondre, mais Sophie Toupin va écrire un article dans votre handbook. Tu as Weber qui a écrit sur l'esprit du capitalisme et l'éthique protestante anglo-saxonne. Tu as beaucoup d'exemples de cas étudiés par Ostrom qui viennent de pays où les pratiques de glanage, de harvesting, sont indispensables à la survie alimentaire des personnes, par exemple en Inde. Xenia, tu viens de donner un exemple d'approche un peu par le haut, si j'ai bien compris, du gouvernement russe. Alors, est-ce qu'il y a des couleurs culturelles?
Oui, je pense. Alors moi, j'ai pas une vision globale. Projet qui m'intéresse depuis le début, c'est Debian, parce que c'est un des projets, bon, j'en parle peut-être beaucoup, mais c'est un projet qui est exceptionnel parce qu'il date du début des années 90. C'est un produit remarquable, puisque c'est une distribution, hein, donc c'est un système d'opération avec toutes les applications qui vont avec, et qui marche sur toutes les différentes architectures, donc c'est un système universel. C'est extrêmement robuste, c'est vraiment de très grande qualité. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en termes de coloration culturelle? Il y a eu des grands débats récemment sur Debian au sujet d'un code de conduite. Okay, donc, toute la question de la représentation des diversités, des minorités genrées, etc. Et là, on a vu une très nette distinction entre, d'un côté, les Américains, qui étaient à fond pour...
Désolé, je vais expliquer après. C'est une question que j'aimerais bien aussi ouvrir au groupe, ce qui est en train de se poser là, ici.
Donc, j'observe, dans des liens très rapidement, j'observe deux différences régionales, entre guillemets. Donc, sur cette question... du genre, d'un côté, les Américains qui étaient à fond pour, par exemple, dire, voilà, on va célébrer Pride Week, on va célébrer ceci, cela. Et d'un autre côté, les Allemands, qui là, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le code? On comprend rien, nous, on veut faire du code et tout. Bon, donc vraiment, c'est une distinction très, très forte.
C'est vrai, les Allemands, ils répondent comme ça?
Certains, dans Debian.
D'accord, parce que moi, je travaille dans une équipe de logiciels libres allemande.
Oui.
Et ils sont super engagés.
Oui, oui. Non, mais je dis pas que c'est universel. Encore une fois, je me méfie un peu des jugements universels. Ouais. Dans Debian, c'est ce que j'ai pu voir. Et ensuite, une autre distinction que j'ai pu voir, c'est entre, donc, par contre, Nord-Sud, et donc là, dans l'Europe, c'est-à-dire plus politiquement, donc apparemment, les développeurs du Sud, que ce soit les Italiens, les Grecs, etc., sont beaucoup plus politisés, beaucoup plus radicaux. Et, que les nordistes, que les Allemands, les Scandinaves, etc. Donc là, c'est deux.
C'est un nord-sud européen.
Ouais, nord-sud européen, tout à fait. Pas du tout. Non, c'est, j'ai bien dit.
Mais, les Italiens, les Grecs et les Espagnols. Vous avez observé.
Oui, oui. Enfin non, c'est pas que j'ai. Là, c'est plus basé sur des discussions que j'ai pu avoir avec des gens de l'Italie. J'ai observé. Donc en fait, comment est-ce que je sais? C'est parce qu'il suffit de s'inscrire sur des listes de Debian, donc on discute un peu de ce qui se passe, donc particulièrement la liste projet, qui est la liste un peu gouvernance communautaire, etc. Et de temps en temps, ça explose, il y a 200 messages en 3 jours, parce que les gens s'intéressent beaucoup à quelque chose. Et donc on voit qu'il y a une controverse, il y a quelque chose qui se passe. Et il y en a une récemment, vers mai-juin, sur la question du travail payé, justement où on était en train de terminer notre article de New Media and Society, parce que il y a un des candidats à l'élection de Project Leader qui avait intégré ses réflexions sur le travail payé dans sa plateforme d'élection parce qu'il avait discuté avec Stefano Zaccarelli, donc un de nos auteurs. Et donc en fait, on a eu un impact sur Debian et on a essayé de terminer l'article. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils vont dire maintenant? J'espère que ça ne va pas être un truc trop différent de ce qu'on est en train de dire dans l'article. Donc c'était assez marrant. Mais sinon, il y a eu des discussions aussi sur toutes ces questions de genre qui étaient assez, assez violentes et assez, assez fortes. Quoi. Voilà. Je ne sais pas si ça répond, mais c'est tout ce que je peux dire. Après, il y a des différences dans Wikipédia, enfin, entre les communautés, ça c'est clair. C'est un sujet trop vaste pour répondre de manière générale. Il faut regarder les choses précisément, je pense.
Oui, mais de manière empirique, ouais, c'est ça.
Oui.
Les fois où j'ai observé, où j'ai eu cette discussion dans différentes communautés, ça correspond. Mm-hmm. Après, oui, il faudrait avoir une démarche plus systématique, mais c'est intéressant aussi. Okay.
Ça change vraiment beaucoup avec le temps. Par exemple, j'avais fait ma thèse entre 2012 et 2015-16 sur la Russie et les développeurs du logiciel libre russe. Et sur le moment, je disais qu'ils étaient apolitiques, ou au moins ils étaient dans l'optique d'évitement du politique. Ouvertement, ils disaient, nous, on code des solutions concrètes pour des problèmes précis. C'est un problème public, certes, par exemple la qualité des routes, mais on code une application qui permettra de détecter, de porter plainte pour que ce soit réparé. C'est pas quelque chose d'abstrait, on n'est pas dans une lutte politique. Et j'avais l'impression que c'était ça, le portrait un peu culturel d'un développeur du libre russe. Or, il y a une semaine, ils ont commencé un hackathon national en ligne contre les répressions politiques. Et toute cette communauté, d'un coup, ils sont à fond dedans à discuter devant moi, parce que j'étudie des chats où ça se passe, et le GitHub, il déborde. Il n'y a pas que du code, là, il y a des discussions politiques, et du coup, voilà, ça m'a cassé complètement ce que j'ai appris pendant les 3 ans, donc...
Ça, c'est aussi parce qu'il y a peut-être des interactions avec des communautés activistes qui se sont... Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est bien que sûr. Le milieu des hackers est quand même assez conservateur aussi, et je pense que ce qui est intéressant, c'est de regarder, enfin, je ne sais pas si vous connaissez le livre de Christopher Kelty, Two Bits, donc il parle de public récursif, c'est-à-dire que ce qui préoccupe surtout les hackers, c'est la possibilité de survie de leur propre environnement, et donc tout ce qui peut nuire à ça, il faut s'en débarrasser. Alors c'est particulièrement la question des droits, hein, de la propriété intellectuelle, bon, ça c'est en train d'être évacué, pas tout à fait comme vous verrez demain si vous voulez, mais l'autre question c'était la question de la vie privée, et là la protection de la vie privée, donc ça c'est vraiment les deux choses que tous les hackers, sur lesquelles s'entendent ces deux piliers en fait de la survie technique du projet, c'est qu'on puisse protéger ses données et sa vie privée. Si ça c'est garanti, le reste c'est pas important. Et je pense que c'est ça, ça a été l'erreur ontologique entre guillemets de tous les radicaux des années 2000, hein, c'est de penser que le milieu des hackers était porteur d'un espoir révolutionnaire politique. Alors c'est pas du tout le cas. Il y a une erreur d'interprétation du fait de la GPL. Hein. La GPL a eu une sorte d'effet voile. Qui a été mal compris par pas mal de gens à gauche.
Il y a le parti pirate qui
oui, alors,
est originaire de
justement,
mais ce serait une sous-partie.
Non, mais le parti pirate, c'est quelque chose qui est sur l'utilisation, c'est quelque chose qui est extrêmement libertarien à l'origine, et c'est vraiment sur l'utilisation des données, enfin de pouvoir télécharger autant de trucs qu'on veut. Et ce qui est marrant, ça c'est quelque chose dont j'ai pas parlé, mais j'ai dit au départ que j'allais pas parler des mouvements sociaux, mais ça c'est dans mon chapitre dans le bouquin. Il y a eu des gros problèmes, les problèmes qu'on voit souvent se développer, c'est-à-dire qu'il y a on met en place des plateformes soi-disant démocratiques, ce qu'ils appellent liquid democracy, où tout le monde peut participer, etc. Mais en fait, c'est comme dans Wikipédia, c'est comme à chaque fois, c'est ceux qui maîtrisent les outils et les langages qui prennent le contrôle, et il y a une minorité qui contrôle en fait complètement ces outils soi-disant démocratiques. Et c'est ce qui s'est passé dans Wikipédia, c'est ce qui s'est passé dans ces outils de discussion des partis pirates. Oui ?
Quand vous parlez de hackers, là, ça s'arrive. Est-ce que typiquement les gens des plateformes, c'est les hackers ?
Je n'en avais jamais entendu parler. Je pense que la définition que moi j'utilise, c'était les gens qui utilisent la technologie de manière autonome. Alors après, le cadre, ça peut s'insérer dans une entreprise. Ça peut, parce que si l'entreprise utilise des projets de logiciels libres, on peut hacker pour une entreprise. Ça peut être dans un du moment qu'il y a une liberté de création et d'interaction et de reproduction, oui.
Donc, selon cette définition, quelqu'un qui travaillerait pour un État qui est la cybersécurité, ce serait pas un hacker.
Après, il y a c'est la définition négative de hacker dans le terme d'intrusion. Ou dans le terme de surveillance, là c'est comme dans le bureau des légendes, là, les types qui ont d'autocollants là, dans la quatrième saison où ils vont en Russie, celui qui se fait déposer en Russie, enfin, je ne sais pas si vous l'avez regardé cette série, c'est sur la DGSE, et c'est assez bien fait. Ils ont une espèce de geek un peu autiste qui est un génie, bon c'est des clichés quoi, mais qui a un ordinateur couvert de stickers. Et qui se fait insérer en Russie et qui fait de l'intrusion. C'est deux interprétations du mot.
J'aimerais une réponse quand même, parce que la réponse.
J'ai pas de. C'est question de définition.
Une question, parce que du coup, on voit bien la dimension normative de ta définition, et du coup, qui est un peu tautologique, parce que l'autonomie. C'est une notion philosophique, politique, mais ce n'est pas une notion pratique.
Non, c'est une question de, disons, de... J'en reviens à la question de l'auto-accomplissement. Est-ce qu'on s'éclate dans ce qu'on fait, ou est-ce qu'on fait parce qu'on est obligé de le faire, parce qu'on nous a dit de le faire?
Alors, c'est ça. Non, mais quel est l'élément de base, le référent, pour définir le hacker? Est-ce que c'est juste des gens qui s'autodéfinissent, ou est-ce que c'est toi qui as une définition par rapport à une histoire qui est sérieux du coup, mais avec des... Enfin, le problème, c'est que courir après l'objet, d'une forme un peu mythologique du hacker...
Ça me dérange pas trop. Je veux dire, moi, j'ai utilisé ce terme parce que ça me paraissait convenir à ce que je voulais dire aujourd'hui, mais j'ai pas de... Encore une fois, je suis pas contre la clarté et si c'est utile, analytiquement, si ça sert à quelque chose. Donc si c'est important de définir précisément pour une démarche scientifique qu'est-ce que c'est, bon là je peux vraiment me presser le citron et trouver quelque chose, mais j'ai pas vraiment de... Je pense que c'est bien d'avoir une multiplicité d'interprétations, et donc si quelqu'un le comprend d'une façon différente, ça me dérange pas. Je veux dire, je suis pas orthodoxe sur ça, quoi. Mais après, est-ce que ça contredit ce que je dis? Non, je pense pas. Enfin, je sais pas, est-ce que ça comprend ce que j'ai dit aujourd'hui, je sais pas.
Non, mais ça joue sur la population que tu regardes.
Je regarde simplement des pratiques, en fait, moi, dans le travail qu'on fait en ce moment-là. Donc c'est juste des contributions à des plateformes. Donc après, l'autodéfinition, comment elle l'appelle, ça rentre pas. C'est simplement qu'est-ce qui est en train de se passer concrètement en termes de contribution. Après, bon, est-ce que c'est autonome ou est-ce que c'est payé? C'est justement toute la question qu'on est en train de voir. Et c'est justement la question dont on va parler demain, c'est à quel point est-ce que ça joue sur la dynamique interne des projets? C'est-à-dire que ces questions d'argent, elles sont taboues dans les projets très traditionnels. Okay, et c'est que depuis 2-3 ans, 4 ans, que ça commence à émerger. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de voir l'impact, disons, du monde, qui, avec l'intégration dans le business, ça pose quand même des grosses questions sur tout le côté. Je pense qu'il y a une illusion aussi qu'il y a toujours eu l'intégration entre l'open source et les entreprises, ça a toujours été là. Mais maintenant, ça atteint un point presque limite, puisque l'open source est en train d'être complètement avalé par les entreprises. Et c'est pour ça que ces questions d'emploi, etc., elles commencent à acquérir vraiment un poids important, à mon avis. Enfin, je sais pas si ça répond à la question, mais je pense pas, mais c'est pas grave.